Et dialogue entre Congolais avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir, les syndicalistes de l'Office national des transports, ONATRA, jugent négatif la gestion à ce jour de l'entreprise espagnole Progosa à la tête de l'Office national des transports. Sur quels éléments se fondent les syndicalistes pour juger ce bilan négatif et où en est-on avec la réforme des entreprises du portefeuille? Nos invités dans cette émission sont Étienne Tadila, membre du syndicat Action, premier syndicat de l'ONASA et président honoraire de la délégation syndicale nationale de cette entreprise. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir Étienne. Michel Moulongo, expert transport du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État Copyref, également avec nous dans ce studio. Bonsoir Michel.
Bonsoir Monsieur Rose.
François Nzekouye, analyste économique et expert en environnement, lui il est en ligne. Bonsoir François.
Bonsoir Alain Roum.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le week-end dernier, la délégation syndicale de l'Office national du transport, ONATRA, a réuni tous les agents afin de faire le point du contrat entre l'ONATRA et l'entreprise espagnole Progosa. À l'issue de la réunion, les agents estiment que ce contrat a coûté cher à l'ONATRA et que le bilan de gestion de Progosa à la tête de l'ONATRA est négatif. Écoutez à ce sujet le président de la délégation syndicale de l'ONATRA, André Vital Agbayo, au téléphone de Berry Franklin Luchaka.
Comme le contrat était trop cher à l'ONATRA, 10 millions de dollars américains, et puis l'ADG touchait 60 000 dollars par mois, et qui n'ont rien apporté à l'ONATRA, nous avons demandé seulement qu'ils cessent de venir à l'ONATRA. Nous avons demandé également que le gouvernement puisse déjà songer, dans les 48 heures qui suivent, de placer déjà d'autres mandataires qui doivent continuer l'action gouvernementale à l'ONATRA. Ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est que le gouvernement ou la tutelle n'intervient que s'il y a déjà le pire. La fois passée, on avait demandé de déplacer les prédécesseurs de Georges Raymond. Ils ont tardé et c'est après 22 jours que le gouvernement s'est saisi au moment où tout était déjà bloqué. Mais nous demandons seulement au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et nous proposer un schéma à suivre.
Étienne, t'as dit là, sur quels éléments, hein, vous, les syndicalistes de l'ONATRA, vous vous fondez pour juger la gestion de Progosa négative?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de clarifier la position du banc syndical qui, une fois de plus, confirme que le contrat Progosa a été un échec. C'est un contrat de 24 mois qui a été conclu par l'État congolais au profit de l'ONATRA avec la firme Progosa. Si nous affirmons aujourd'hui que les deux ans de gestion Progosa n'ont été que fiasco, c'est au regard des objectifs même stipulés dans ces contrats. Le contrat s'intitule bien « Contrat d'assistance technique pour la stabilisation des activités de l'Office national des transports ONATRA ». Et c'est un contrat qui reprend à la page 15, 16 et 17 les différents objectifs qui étaient assignés à la soi-disant firme experte Progosa.
Alors quels sont ces objectifs?
Ces objectifs, comme je l'ai dit, se retrouvent à la page 15, 16 et 17. Et le maître mot de tous ces objectifs, c'est la stabilisation des activités de l'ONATRA, le maintien du niveau des activités de l'ONATRA au niveau de tous les départements opérationnels, c'est-à-dire les ports maritimes, les chemins de fer, les chantiers navals, les ports fluviaux, ainsi que le port de Kinshasa. Aujourd'hui, les constats que nous faisons à l'ONATRA, c'est que la situation est pire qu'avant l'avènement de Progosa. Ce qui fonde la partie syndicale ONATRA à dire que ce contrat n'a servi que d'un prétexte pour permettre à la firme Progosa et ses acolytes, malheureusement, qui se recrutent parmi les ténors du gouvernement qui les soutiennent, à gonfler leur poche. Parce que deux ans de contrat pour un coût de 10 millions de dollars américains, sans constater de la part du gouvernement congolais à qui appartient l'ONATRA une quelconque volonté, un quelconque souci de clarifier la gestion de l'ONATRA par la firme Progosa, nous pensons que cela un schéma ou une détermination qui dit clairement que le lendemain de l'ONATRA n'est pas la préoccupation de ceux qui dirigent l'entreprise. Parce que je confirme que l'ONATRA, au jour d'aujourd'hui, a eu à décaisser 10 millions de dollars payés à la firme Progosa, alors que cet argent, en temps normal, aurait permis à l'ONATRA de se refaire ne fût-ce qu'en engin portuaire ou en engin ferroviaire. Mais on a payé comme ça 10 millions. Pour quel résultat? Vous êtes la presse, vous pouvez faire circuler votre micro à l'ONATRA et je pense que les résultats que vous découvrirez sur le terrain ne me contrediront nullement.
Alors, vous avez dit l'un de l'objectif majeur hein, de ce contrat entre Progosa et l'ONATRA, c'était la stabilisation des activités de l'État. À quoi vous vous attendiez au niveau de l'ONATRA en parlant de stabilisation?
Bon, ce qui était attendu par les agents, ce n'est fût-ce que le maintien du niveau des exploitations. Lorsqu'il y a 2 ans, la firme Progosa arrivait pour ne prendre que le cas du département des chemins de fer. Ces départements tournaient avec 8 ou 9 locomotives par jour. Mais aujourd'hui, les données de l'exploitation existent. On est à moins de 4 locomotives par jour. Encore qu'il faut défalquer de ces 4 locomotives, 2 qui sont affectées au transport urbain. Donc, pour la ligne chemin de fer Matadi-Kinshasa, en réalité, l'ONATRA ne dispose que de 2 locomotives. 2 locomotives dont la réhabilitation en termes disons, d'acquisition des pièces de rechange et le cadet des soucis de ceux qui dirigent l'entreprise. Donc, je n'ai pris que le cas du département des chemins de fer pour vous démontrer que c'est en termes de stabilisation que les agents de l'ONATRA attendaient, rien n'a été observé. Bien au contraire, nous avons constaté que les experts Progos apparaissaient beaucoup plus intéressés par l'activité portuaire, où l'ONATRA est dans une situation de quasi-monopole. Donc, on n'a pas besoin de mener une quelconque démarche pour faire accoster un bateau au port de Matadi. Et c'est là où il y a du jus, et ceux qui sont venus nous assister pour améliorer la technique de gestion, et c'est là qu'ils semblent être préoccupés à déployer leur soi-disant savoir-faire.
Michel Moulongo, vous êtes expert transport du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État Copirep. C'est l'équipe pratiquement technique hein, du gouvernement qui a dû même proposer, je pense, le contrat Progosa. Vous avez suivi, hein, Etienne Kadila. Qu'est-ce que vous, comment vous réagissez?
Oui, je suis Irung. Merci d'abord, en commençant par remercier les auditeurs de Radio Capi. Pour une fois, ils écouteront en termes techniques, en réalité, et audible à tout le monde, c'est que le contrat de gestion signé à l'ONATRA. En réalité, il faut circonscrire ce contrat. Ce contrat, il est mis en place pourquoi? Parce que l'État congolais a remarqué que les entreprises structurantes de son économie, dont fait partie l'ONATRA, étaient ou allaient vers une cessation d'activité à cause de la gestion qui y avait élu domicile. Je vous donne des chiffres, je parlerai en termes de chiffres. D'abord, en ce qui concerne le contrat lui-même, Progosa avait 2 missions à l'ONATRA, c'est de faire un diagnostic sur 2 mois, et ensuite, sur 24 mois, de stabiliser. Et pour stabiliser, Progosa devait proposer un plan de stabilisation qui devrait être financé par les revenus de l'ONATRA ou par un appui gouvernemental. C'est ça, la fin. Là, on circonscrit. De 2, le contrat Progosa ne coûte pas 10 millions de dollars comme l'insinue nos amis. Il coûte largement moins. Ça va aux environs de 6 millions de dollars sur 2 ans. Donc 3 millions de dollars par an. Donc c'est très loin, c'est le double de ce que nos amis disent. Le salaire de l'ADG de l'ONATRA n'est pas de 60 000 dollars. Là, il faut que nos amis syndicalistes apprennent à parler en toute transparence. De 2, maintenant, voyons ce qu'il y avait à l'ONATRA. Avant Progosa. Il y avait des arriérés de salaire en moyenne de 4 mois. Dans certaines exploitations, comme en Bandaka, ils avoisinaient 25 à 32 mois. Nous-mêmes, Copilote, nous avons mené une étude diagnostique avec l'équipe de l'ONATRA, où étaient représentés les syndicalistes Et M. Tadila, si présent ici, on se connaît très bien. À l'époque, il était président de l'intersyndical de l'ONATRA. Je crois que j'avais désaléré en moins de 4 mois. Et malgré cela, l'intersyndical dont M. Tadila était président n'avait jamais revendiqué quoi que ce soit. Et tout le monde et tous les agents de l'ONATRA le savent. Il y avait l'encombrement du port de Matadi pour à peu près 3000 à 5000 boîtes, c'est-à-dire des boîtes équivalentes 20 pieds, ce sont des conteneurs qui traînaient dans le port. Il y avait un emprunt de 10 millions de dollars non remboursé pour acquisition d'engins portuaires laissé par le comité passé, disant qu'il avait acquis ses engins sur fonds propres, alors en réalité que c'était un prêt fournisseur d'un grand client de l'ONATRA. Il y avait des notes de crédit frauduleuses à hauteur de 7 millions de dollars. Les notes de crédit frauduleuses, c'est quoi? C'est l'une des raisons qui ont poussé l'État, justement, à voir clair dans la gestion de l'ONATRA. En fait, il y avait un système à l'ONATRA entre certains membres du personnel et certains clients qui déclaraient des fausses avaries et l'ONATRA était obligé de rembourser, par exemple, en matière de transport. Et cela, c'était une ardoise de 7 millions de dollars. Il faut vous rappeler qu'avant la venue de Progoza, en fait, Progoza n'est pas seul. C'est une équipe mixte avec deux nationaux. Deux Congolais, dont l'un était ADGA et un ADEF. Le chiffre d'affaires mensuel, c'est très important parce qu'il faut savoir l'état de l'entreprise avant l'arrivée de l'équipe mixte. Le chiffre d'affaires moyen variait entre 6 millions et 7 millions et demi de dollars et des encaissements ne représentaient que 3 millions et demi à 4 millions.
Alors donc, par delà les chiffres, Michel Moulongo, on comprend que, d'après ce que vous dites, avant l'arrivée de Progoza, et après, il y a eu beaucoup de changements. Et donc, vous pensez, vous confirmez que la stabilisation a effectivement eu lieu?
Je ne confirme pas, mais il faut nuancer. Il y a eu une avancée. Il y a eu des avancées. Et les avancées se retrouvent dans les améliorations qu'on a constatées. Je peux vous les donner.
Mais Étienne Tadila a relevé plutôt le contraire. Hein. On a l'impression, d'après lui, que l'ONATRA ne fait que regresser.
Mais qu'il donne des chiffres. Nous parlons en termes de chiffres. Nous, ici, nous sommes des techniciens. Je ne fais pas de la politique. Je ne ferai pas de la politique comme les syndicats. Donc, je suis venu ici pour parler en termes de chiffres. Des améliorations. Nous ne disons pas que le contrat Progoza était parfait. C'est aussi des hommes. Il y a eu quelques insuffisances, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce que nous avons constaté et je vous donnerai les chiffres.
François Nzekouye, vous êtes analyste économique et expert en environnement. Vous avez suivi Étienne Tadila et Michel Moulongo. Comment vous analysez ce débat à ce niveau? Y aurait-il des problèmes de communication entre Progoza ou entre l'ONATRA et ses employés?
Mais tout à fait, il y a en fait plusieurs problèmes. Je salue d'abord tous les intervenants, dont Michel Moulongo, mon collègue de classe. Je voulais dire d'abord qu'il y a premièrement effectivement un malentendu entre la direction des l'ONATRA et les syndicats. Vous savez qu'au niveau des l'ONATRA, il y a 32 syndicats, mais aujourd'hui, quand vous entendez les syndicalistes parler, il n'y a que les 5 syndicats qui sont en train de parler. Et on donne l'impression que les syndicalistes, effectivement, sont en train de rouler pour les propres. Je ne suis pas d'avis, effectivement, que le contrat Progoza ait été le meilleur. Encore personne ne l'a dit non plus. Et vous connaissez ma thèse là-dessus. J'estime que en suivant ce que Michel Moulongo venait dire ici, qu'on ait payé à une firme extérieure 6 millions de dollars pour pouvoir redresser la gestion d'une entreprise publique, c'est comme si au Congo, il n'y avait pas de compétences pour pouvoir les faire. Cette tendance à vouloir toujours dépendre de l'extérieur 50 ans après l'indépendance me semble une attitude très reprochable aux Congolais et comme si les Congolais n'avaient pas confiance à lui-même. Je crois que il était possible, effectivement, de redresser la gestion de l'entreprise en mettant des mécanismes de contrôle, parce que Michel Moulongo vient de décrire ici quel est le détournement, mais qu'est-ce que nous avons fait les gestionnaires de l'ONATRA qui sont reprochés de tous ces maux? C'est comme si dans notre pays, il suffit de renvoyer quelqu'un de son poste et le mal qu'il a fait est directement effacé. Je crois que qu'on est mis des Européens ou des Congolais, si nous continuons la même situation d'impunité au niveau de la gestion, Et si nous continuons à croire que la race blanche reste supérieure à nous et qu'elle est là pour faire des miracles à notre place, je crois que nous sommes en train de faire une fausse route. J'estime donc que les copyrights n'ont pas eu raison de recruter cette entreprise étrangère, et encore moins, c'est la même situation aussi à ce qui concerne la Gécamines, avec Sofeco, où M. Fortin a dû démissionner, sans pour autant remplir les mandats qui lui étaient confiés. Donc en regardant autour de nous toutes les entreprises publiques pour lesquelles les copyrights ont signé des contrats, d'assistance technique, on a l'impression que ces personnes-là sont contentées plutôt de gérer ce qui leur était facile. À l'ONATRA, à la gestion des ports, à la GECAMI, la gestion des partenariats, sans pour autant penser à l'outil de production qui devrait, à notre avis, être le cheval de bataille pour permettre à ce que l'entreprise puisse arriver à mettre plus d'argent à la caisse. Et aujourd'hui, le chemin de fer n'est pas remis en état et les wagons sont toujours vieux au niveau de l'ONATRA. Les bateaux, c'est la même chose. Il y a, je crois, un seul bateau qui a été réhabilité et qui fait la voie Kinshasa-Kisangani. Mais c'était, comme je disais, en faisant des comparaisons avec le seul Azikamine où Sofeco est venu, avec l'idée de pouvoir d'abord, bien sûr, régler les problèmes sociaux, les salaires, c'est qu'a fait aussi proposer à sa manière pour décompter l'ONATRA, mais aussi remettre l'outil de production en marche, ce que ni l'un ni l'autre n'a réussi à faire. Donc moi, j'estime qu'il était possible, de mon point de vue, d'utiliser des Congolais qui pouvaient coûter beaucoup moins cher à l'État congolais et d'arriver à des résultats meilleurs, bien évidemment avec des mesures contraignantes, parce que l'homme n'est pas naturellement bon, naturellement mauvais, ça dépend des circonstances dans lesquelles on les met pour pouvoir se mouvoir.
Merci.
Si on laisse les gens impunis, il n'y a pas moyen d'espérer grand-chose de qu'ils soient des blancs comme des Congolais.
Merci à François Nzekouye. Etienne Tabila, il y a cet auditeur, il est à Guémanga de Bouya en province orientale, qui vous demande, je veux savoir si dans ce contrat avec l'entreprise espagnole Provoza, l'ONATRA a été rééquipé, ses grues augmentées, le personnel bien payé, ou si rien n'a changé. Vous y avez déjà répondu en partie, vous pourrez encore donner quelques précisions. Mais comme vous venez de le dire, François Nzekouye, n'y a-t-il pas eu malentendu entre votre employeur et vous, les syndicats?
Moi, je voudrais d'abord réagir à la prestation du camarade du copyright pour dire que je me réjouis de l'état des liens qui a été fait par les copyrights et qu'il a relayé lui-même. Mais là où je suis en désaccord avec lui, c'est de dire que cela a été fait avec la partie syndicale de l'ONATRA. Parce qu'il avait été convenu effectivement que les copyrights collaborent avec les syndicats. Ça a commencé, comment ça finit, les copyrights se le sait. Et par rapport au coût du contrat, qu'on ne trompe pas l'opinion parce qu'on veut bien s'ériger en spécialiste en chiffres, lorsqu'on dit que ce contrat coûte entre 4 millions et 4 millions 500 d'euros, quand vous convertissez cela en dollars, ça vous donne combien? Ajoutez à cela des frais de contingence. Ajoutez à cela les loyers de ces expatriés pris en charge par l'ONATRA. Ajoutez à cela d'autres frais d'émission et ainsi de suite. S'agissant des arriérés des salaires à l'ONATRA, j'ai mis au défi les copyrights d'apporter la preuve qu'à l'ONATRA, on a atteint, pour justifier l'arrivée du copyright, on avait atteint 4 mois d'arriérés. Ça n'a jamais existé. Les arriérés qu'on a connus à l'époque à l'ONATRA et qui ont justifié la venue de Provoza, parce que c'est ça l'argument soutenu par les copyrights, ont été créés par le ministère du portefeuille, qui avait produit avant l'avènement de l'actuel comité de gestion ou de l'actuelle direction générale, une note qui amputait pratiquement les gestionnaires de l'époque de toute initiative. C'est la fameuse note qui portait mesures conservatoires. Si on nous dit aujourd'hui que l'ADG de l'ONATRA avec le contrat Provoza ne touche pas 60 000 dollars, c'est vrai, les ouvriers peuvent gonfler les chiffres, mais quand un ADG sur base du contrat touche 38 573 euros, vous convertissez ça en dollars, ça vous fait combien? N'êtes-vous pas autour de 50 000 dollars américains? Quel est ce mandataire public congolais qui touche ce montant? Ce sont des choses qui révoltent, d'autant plus qu'on est à l'aube du cinquantenaire. Ne pas avoir le courage de dénoncer ces histoires, c'est faire le jeu du copyright. Et ça, ça ne passera pas à l'ONATRA. Donc, nous pensons que pour répondre maintenant à
l'auditeur, est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des arriérés de salaire?
Aujourd'hui, effectivement, les arriérés de salaire existent. Les arriérés de salaire sont de 2 mois. Et c'est pas pour rien que nous sommes en instance de conciliation à l'inspection du travail. il y a un conflit collectif qui a été ouvert par le bureau de la délégation syndicale nationale. Et là, il s'observe un manque de maîtrise même des chiffres d'affaires dans les chefs de l'ADG, qui s'était permis de dire que voilà, les charges du personnel ont atteint le seuil de 80%. Le banc syndical qui a réfuté cela, parce qu'au mois de juin, nous étions à 45, a demandé à l'ADG d'apporter la preuve que les charges du personnel étaient autour de 80%. Cet avant-midi, nous étions à l'inspection générale du travail. L'ADG, après avoir travaillé durant tous les week-ends, n'a pas pu ramener ses charges du personnel, ne serait-ce qu'à 55%. Donc si aujourd'hui on doit vanter les chiffres d'affaires augmentés par Progo, ça veut qu'on nous dise, on l'a élevé à combien? Parce que nous, ça nous réjouit que la production augmente, puisque plus la production augmente, plus les travailleurs gagnent. Donc qu'on nous dise par les copyrights que voilà les chiffres d'affaires que Progo avait trouvé à autant, il l'a élevé à tel montant. En termes d'équipement, cet auditeur peut retenir que rien n'a été apporté à l'ONATRA sous la gestion de Progos. C'est maintenant qu'ils sont fin contrat, qu'ils ont précipitamment lancé 3 appels d'offres internationaux que nous avons lus par voie de presse. Et là, nous avons vite compris l'astuce. Il s'agit de lancer des appels d'offres en faveur des firmes dont ils connaissent déjà les animateurs, pour que demain, lorsque le contrat aura pris fin, que Progos a peut-être nous revienne sous les labels des fournisseurs. Et ça, c'est mieux que ça soit dit, pour que qui de droit en tienne compte.
Merci, Michel Moulongo. Il y a deux auditeurs du Bas-Congo. Christian de Matadi qui dit, nous les travailleurs au port de Matadi donnons raison aux syndicalistes qui nous disaient que ce contrat entre Progosa et l'ONATRA était léonin. Nous nous opposons à la reconduction de ce contrat entre ces deux entreprises car nous constatons que Progosa n'a rien fait de positif au profit de l'ONATRA. Mbonga de Matadi encore au Bas-Congo, l'échec de la stabilisation de l'ONATRA par la Progosa doit interpeller la ministre du portefeuille et le copyright en tirant des leçons pour que le processus de réforme ne produise pas un résultat négatif.
Ok, merci. Je voudrais dire que nous, au niveau du copyright, on est pratiquement à l'aise par rapport aux questions. Je voudrais rappeler à mon excellent collègue François qui est intervenu, c'est que les problèmes de faire venir des expatriés pour gérer des entreprises au Congo, il n'y a pas qu'au Congo où ça existe. Moi, je vous citerai un cas. Prenez le cas de Nissan. Nissan, c'est une entreprise japonaise qui, il y a 6 ans, était presque en faillite. Vous n'allez pas me dire que le Japon manque d'hommes expérimentés pour gérer.
Mais tout dépend
de les Japonais, monsieur, ont fait recours à un Français d'origine libanaise, monsieur Carlos Ghosh, qui a relancé Nissan. C'est un étranger. Est-ce que le Japon manque d'experts? Donc je crois que c'est ces choses-là qui sont à la rigueur presque raciale. On ne devrait pas aujourd'hui, 50 ans d'indépendance de la RDC, parler de ces choses-là. Parce que pour redresser des entreprises comme l'ONATRA, on a besoin des gens qui ont déjà fait leurs preuves. On n'a plus besoin, 50 ans après, de commencer à aller dans les expatriations. Et puis vous devez vous rappeler une seule chose, c'est que les réformes, ceux qui perdent dans le cadre des réformes savent ce qu'ils perdent. Mais ceux qui gagnent ne savent pas qu'ils gagneront. C'est ça le problème.
C'est là que vous adressez aux syndicalistes.
Les réformes, ceux qui perdent savent pourquoi ils se battront contre les réformes. Ça, c'est une parole des réformateurs. Alors, maintenant, je voudrais dire ceci. Les chiffres sont là. Le contrat, il n'est nullement de 10 millions de dollars. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais revenir sur les chiffres. Avec l'équipe mixte, parce qu'on parle de Progosa, attention, c'est un comité de gestion mixte où il y a 2 Congolais, et j'insiste. Et avant l'arrivée de Progosa, les 2 Congolais ont géré l'ONATRA durant 6 mois. Mais c'était en perspective de la venue de Progosa. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à payer à l'ONATRA tous les 20 de chaque mois, ce qui ne s'était plus fait depuis 15 ans. Et les gens ne croyaient pas que ça irait de suite. Le chiffre d'affaires, il est passé de, je disais tantôt, de 10, de 7 à 10, 12 millions de dollars. Vous savez, le problème maintenant chez nous, c'est quoi? Et ça, c'est le drame. Il y a un problème de culture de gestion entre notre gestion à la Congolaise et la gestion de ceux qui nous faisons venir. Vous pensez bien, mon collègue
les syndicalistes disent oui, à l'ONATRA, les charges sociales, c'est 45%. Mais 45%, c'est déjà trop pour une entreprise. Et vous allez investir avec quoi? C'est ça tout le problème de nos entreprises. Il y a un problème de culture de gestion. Et les syndicats, eux-mêmes, doivent être réformés ou se réformer de l'intérieur. Parce que, apparemment, tous les revenus dégagés durant le mandat Provoza, après une année, il y a commencé à y avoir des revendications. Et la marge d'exploitation dégagée s'est amenuisée encore dans les charges sociales au lieu que cette marge-là serve aux investissements. Parce qu'il ne faut pas croire que les investissements vont tomber du ciel. Ils doivent venir de l'effort fourni par la gestion en attrape. C'est ça la réalité dans toutes les entreprises et surtout qui sont en train de devenir commerciales.
François Zekouye, il y a Pacifique de Kinshasa qui dit « Ces réformes ne peuvent pas réussir car certains responsables gèrent mal les entreprises concernées au détriment de l'État et des travailleurs. Je souhaite que le président de la République tasse tous ses contrats et nomme des bons managers à la tête des entreprises du portefeuille. »
Oui, je suis en partie d'accord avec lui, mais moi je crois qu'il y a d'abord les cadres structurels qui doivent être modifiés. En fait, c'est ce dont on en devrait parler tous ces jours ici, l'amélioration des climats des affaires. C'est-à-dire qu'on peut mettre un homme futile, asiatique, européen ou américain, dans le contexte congolais, et gangréné par la corruption, il n'est pas évident qu'il va s'en sortir. Et moi, quand j'ai parlé du fait qu'on ne doit pas continuer 50 ans après à importer des experts, c'est parce que depuis l'indépendance, nous avons des coopérants, vous connaissez des termes qui étaient utilisés à l'époque, des coopérations techniques, où vous voyez dans les administrations ou l'entreprise publique, des gens qui étaient comme des conseillers, des ADG, des ABT, qui étaient là grassement payés, mais cela n'a pas donné des résultats. Pourquoi? Ce n'est pas que les cadres qu'on nous importe de l'extérieur sont incompétents, mais ils sont mis dans des conditions telles que ils ne peuvent pas agir étant donné que la corruption est érigée en règle de gouvernance. Et c'est cela, en fait, les vrais problèmes aujourd'hui. Michel, on le mettrait aujourd'hui à des yeux de l'ONATRA dans des conditions de transparence. Il redresserait cette entreprise-là, qui est un bon expert dans le domaine des transports. Moi, on le mettrait à se terminer et redresserait des choses. Mais avec quel collaborateur vais-je travailler? Avec quel esprit de travail sommes-nous en train de travailler au Congo aujourd'hui? Vous vous rappellerez, j'aime bien évoquer quand même sa mémoire, à l'époque des musées de Kabila, on se promenait dans les taxibus en s'entrecroisant les jambes. Il a fallu qu'ils disent aujourd'hui c'est la fête, celui qui le fait, il a une chicotte, et jusqu'aujourd'hui nous avons changé cette mentalité-là. Je crois que nous avons besoin que les autorités nous donnent un exemple sur la bonne gouvernance et la bonne gestion, et je crois que nous avons suffisamment de Congolais pour pouvoir gérer correctement nos entreprises, et publiques et privées. Mais tant qu'il n'y a pas de normes contraignantes, comme je l'ai dit, Michel Mongo ne m'a pas répondu à cette question, pourquoi tous les ADG qui sont considérés comme coupables de mes gestions ne sont jamais mis en prison, sauf quelques-uns, et pour des motifs qui ne sont pas clairs, et quelques temps après, on les relaxe. Donc je sais que nous devons avoir des lois qui soient contraignantes, nous devons avoir des autorités qui soient exemplaires, qui ne puissent pas avoir trempé eux-mêmes dans des médiations, pour que nous puissions espérer que nous y ait une culture de gouvernance économique. Mais quand on dit toujours que nous, les Congolais, nous ne sommes pas quand même la race la pire du monde, mais si nous avons des structures qui puissent nous gérer et qui nous évitent bien évidemment la concussion et la corruption, je ne vois pas un Congolais qui est bien payé, comme l'a dit le syndicaliste de l'Antra, qui a 38 000 euros, qui va commencer à voler dans la caisse de l'État en sachant tous les avantages qu'il a. Merci. Est-ce qu'on a mis un Congolais à la tête d'une entreprise publique et les mettre dans les mêmes conditions de travail pour voir de quelle manière il s'en sort? Ça, en fait, la grande question que nous posons. Il ne suffit pas d'amener les gens de l'extérieur, mais tenir compte des Congolais qui sont compétents et les mettre dans les mêmes conditions que dans lesquelles nous mettons les expatriés ou les consultants ou les coopérants, pour que nous voyons si les Congolais n'est pas capable de faire la même chose.
Merci. Les syndicalistes de l'Office national de transport jugent négatif la gestion à ce jour de l'entreprise espagnole Progoza à la tête de l'UNATRA. Sur quels éléments se fondent les syndicalistes pour juger ce bilan négatif et où en est-on avec la réforme des entreprises du portefeuille? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de
ce soir. Nos invités dans cette émission sont Étienne Tadila, membre du syndicat Action, premier syndicat de l'ONATRA et président honoraire de la délégation syndicale nationale de cette entreprise, Michel Moulungo, expert transport du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État Copirep, François Zicouillet, analyste économique et expert en environnement. Si cette émission vous intéresse, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Où en est-on avec la réforme des entreprises du portefeuille? C'est la deuxième partie de cette émission. Tentative de réponse avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Pour arriver à la réforme des entreprises publiques telle que voulue par l'État congolais, il y a deux préalables à franchir. C'est notamment le cadre juridique devant régir ces entreprises et la mise en pratique de ce cadre juridique. En ce qui est du cadre juridique, le processus est suffisamment avancé. Le président de la République a promulgué en juillet 2008 quatre lois, notamment la loi portant transformation des entreprises publiques, la loi portant désengagement de l'État, la loi sur les établissements publics et la loi portant organisation et gestion du portefeuille de l'État. À côté de ces lois, le Premier ministre a publié à son tour, en avril 2009, cinq décrets pour matérialiser la mise en pratique des lois du chef de l'État, parmi lesquels on retrouve le décret sur le reclassement des entreprises publiques, le décret portant organisation et gestion du fonds du portefeuille de l'État. Ce sont ces lois et décrets qui constituent le cadre légal de la réforme. Mais là où les choses ne tournent pas encore correctement, c'est au niveau de l'application. Selon certains analystes, aujourd'hui, la balle est dans le camp à la fois du gouvernement et du comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques de l'État, organe technique chargé d'étudier les stratégies de réforme des entreprises publiques. Le gouvernement n'a pas encore adopté les stratégies de réforme pour les entreprises, du moins pour ceux dont les stratégies sont connues, notamment la GECAMINE, l'OCPT, l'OCC, la SNCC et la RVA, pour ne citer que celles-ci. Néanmoins, avec la promulgation du décret, on a pu avoir une idée des statuts de certaines entreprises publiques, notamment les régies financières comme l'OFIDA, qui est devenue aujourd'hui la DGDA par exemple. D'autre part, comme l'affirment certaines sources, la léthargie vient aussi du COPIREP qui n'a pas encore achevé l'étude des stratégies pour toutes les entreprises qui doivent être transformées en société commerciale ou en service public. C'est le cas de la SNEL, de la Régie des Eaux, de l'ONATRA et j'en passe. Et c'est le travail qui est en train d'être fait au niveau du COPIREP au fur et à mesure.
Michel Moulungo, le cadre juridique a été planté, mais où en sommes-nous concrètement avec la réforme des entreprises du portefeuille?
Oui, voilà. Le cadre juridique a été complètement planté et j'en suis ravi et aise. Le problème, comme l'a rappelé, il y a eu les lois sur la transformation, il y a eu les décrets du Premier ministre du 24 avril 2009 pour mettre justement en phase ces lois. Et aujourd'hui, par exemple dans les entreprises du secteur du transport, concomitamment au contrat de stabilisation, il y a une procédure de transformation juridique qui est en train de se faire. Sur les entreprises, anciennement entreprises publiques qui émergent, qui ont un caractère marchand, qui sont en train de passer à l'état de société commerciale, évidemment, il y a une étude sur les statuts qui est finie. Au 24 avril, on devra pouvoir inscrire ces entreprises au registre de commerce. Mais il faut savoir une chose. Il y a des due diligence qui sont en fait des études de risques financiers, comptables, juridiques et techniques qui seront menées dans les entreprises structurantes de l'économie, les six grandes, notamment dans le secteur des transports sur la RVA, l'ONATRA et la SNCC, qui vont devoir évaluer le patrimoine et établir la valeur de ces entreprises. Parce que je vous donnerai un cas, le cas de l'ONATRA. C'est vrai, l'ONATRA a toujours été géré par les Congolais. Mais si nous avions fait appel à une expertise étrangère, c'était pour mettre fin à certaines habitudes qui avaient eu domicile. Pourquoi? Vous serez étonné que l'ONATRA, malgré son imposant immobilier, quand vous allez dans les fichiers des immobiliers de l'ONATRA, il n'y a même pas, l'ONATRA n'a aucun titre, presque pas de titre de propriété sur ces immeubles. Alors, les bilans disent quoi à ce moment-là? Puisque ce bien n'appartient pas à l'ONATRA, Est-ce qu'aujourd'hui l'État congolais connaît la valeur de l'ONATRA? Non.
Vous voyez? Et cette opération pourrait prendre combien de temps pour déterminer le patrimoine de toutes ces entreprises?
Vous imaginez, l'ONATRA, c'est sur 4 à 5 provinces. Et cette opération pourrait prendre 6 à 8 mois maximum. Vous voyez? À ce moment-là, on établirait correctement le capital de l'ONATRA. Et là, le gouvernement saura exactement ce que pèse l'ONATRA. Je vous jure, il y a des cas à l'ONATRA. L'ONATRA rachète ses propres maisons. Vous voyez? Donc, une maison qui n'a pas de titre de propriété, mais tout le monde sait qu'elle appartient à l'ONATRA, elle est vendue à un tiers, et lorsqu'on attaque ce tiers, il revend la maison de l'ONATRA à l'ONATRA et l'ONATRA rachète. Ce sont ces choses-là auxquelles il faut mettre fin.
Étienne, tu as dit là, vous êtes syndicaliste hein, à l'ONATRA. Est-ce que vous ressentez déjà, ne fût-ce que des élans de transformation prochaine au niveau des travailleurs?
Nous pensons que dans ces processus, les travailleurs sont restés sur leur soif, sur leur position. Le COPIREP soutient ici que la raison ou l'une des raisons pour lesquelles on a confié l'ONATRA aux experts, c'est justement préparer cette transformation. Encore que le copyright qui a fait un parallélisme avec les Japonais n'a pas donné les profils des experts que ce copyright a recruté pour construire l'ONATRA. Est-ce qu'on peut vraiment attendre un diagnostic sérieux d'un soi-disant expert qui, pour tout dire, n'a comme qualification supérieure que chef d'un dépôt? Donc c'est pas parce qu'on est blanc qu'on a forcément le meilleur diplôme par rapport aux noirs que nous sommes. Le COPIREP a encore dit que voilà, la stabilisation devait durer 24 mois, précédant 2 mois d'état des lieux. Et le COPIREP ici présent est mieux placé pour nous dire, par rapport à cette transformation qui était attendue du blanc, qu'est-ce que les experts ont coulé dans leur plan d'action qui devait censé avoir été établi au terme de 2 ans de diagnostic. Est-ce que ce plan d'action a déjà été discuté au niveau interne de l'ONATRA pour fédérer toutes les énergies de l'ONATRA pour que finalement ça soit un document endossé par les agents de l'ONATRA? Parce que ces experts ne sont pas venus travailler à guichet fermé. Ils ont été appelés à associer l'expertise maison. Il a bien dit que c'est une équipe de gestion mixte. Donc, c'est la combinaison de l'expertise étrangère et de l'expertise congolaise qui devait finalement mettre en place le fameux plan d'action, lequel plan d'action devait préparer la transformation de l'entreprise ONATRA. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui était fait ou qui était censé être fait en rapport avec la transformation de l'ONATRA, qui devait passer de l'entreprise publique à la société commerciale, mais nous sommes au point mort. Nous sommes au point mort. Le portefeuille qui pilote la réforme a diligenté à l'ONATRA des missions qui devaient travailler sur les actions urgentes préalables à la réforme. Et Cotteret peut nous dire où en sommes-nous avec ces missions aujourd'hui? Encore que par rapport à tout cela, les volets concernant le plan social, parce que la finalité c'est là. On ne va pas nous convaincre en nous faisant avaler que aucune réforme ne peut entraîner de dégraissage. Dans le cas précis de l'ONATRA, nous savons que la réforme telle qu'elle est perçue par le gouvernement, la transformation de l'ONATRA telle qu'elle doit se faire, aura des incidences sur le personnel. Le gouvernement n'accepte pas un débat de fond sur le plan social. Un semblant d'atelier, je dis bien un semblant d'atelier, avait été organisé dernièrement, je crois, au Grand Hôtel. Mais qu'est-ce qui a été dégagé de cet atelier comme conclusion? Où les plans sociaux des entreprises appelées structurantes, ONATRA, Jicamine, Yanakis, étaient évalués à plus d'un milliard de dollars américains. Quel est ce bailleur de fonds aujourd'hui qui va mettre 1 milliard à la disposition des entreprises publiques congolaises rien que pour payer les départs en retraite? D'autant plus que nous entrons dans un contexte de libre marché, où ceux qui mettent les capitaux voient d'abord leurs intérêts. Donc, par rapport à l'avenir de la carrière de nos travailleurs, nous avons des raisons sérieuses de croire que la réforme ne va pas amener le bonheur des agents.
François Nzekouye, vous réagissez à la fois à propos de Michel Moulongo et d'Etienne Tadila, mais en plus il y a Danine Kieré, cet auditeur de Kisangani en province orientale qui vous demande, je veux savoir quelle politique avait l'ex-Zaïre pour redresser ou stabiliser les entreprises publiques, notamment l'ONATRA. Où sont les bateaux de l'ONATRA tels que Courrier, EBA, Tchatchi, Kokolo et autres?
Oui, en fait, moi je vais rebondir d'abord sur la question de la réforme des entreprises publiques. Vous savez, les entreprises publiques qui vont être transformées en entreprises commerciales vont avoir la forme d'une société par action à la stabilité limitée. Mais le décret du 24 avril 2009 du Premier ministre dit que dans cette entreprise, seul l'État congolais est actionnaire. Or, nous savons que la forme d'une SARL également doit avoir 7 actionnaires. On se demande comment le gouvernement aura tordu le cou aux principes généraux du droit quant à ce qui concerne ces actions sont délimitées. C'est une question que l'on pose. Mais aussi, comme l'a dit M. Tadila, il y a un problème effectivement de consultation des personnes intéressées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait toute leur carrière dans le public. Vous n'allez pas les privatiser aujourd'hui et dire que ces personnes n'ont aucun mot à dire. Pourquoi l'État congolais n'essaie pas de parler avec les cadres de direction, les autres travailleurs de l'entreprise, pour en faire actionnaires de ces entreprises publiques, pour espérer que il y ait une paix sociale, comme l'a souhaité M. Tadila. On a l'impression, effectivement, qu'il y a une fuite à l'avant de l'État congolais quant à ce qui concerne cette transaction d'entreprise publique, comme si il y a des personnes qui ont des intérêts particuliers à cela, et non pas simplement l'effort de redressement des entreprises. Quand ce qui concerne les bateaux qui ont existé par le passé, bien évidemment, on sait que la plupart d'entre eux sont garés quelque part, ils ne sont pas à destination, et c'est bien évidemment quelque chose de triste. Donc il faut arriver, effectivement, pour ce qui concerne l'ONATRA, à remettre ces bateaux au niveau des fleuves, pour que, bon, on sente quand même une certaine activité, parce que beaucoup de marchandises et produits agricoles sont en train de pourrir à l'intérieur du pays et beaucoup des coins du pays n'arrivent pas à avoir des produits manufacturés qui sont importés, qui doivent venir de Kinshasa. Donc, c'est un besoin, mais je crois que nos amis de l'ONATRA sont mieux placés pour me répondre où seraient les bateaux à ces jours. Mais je me dis que la réforme des entreprises publiques est mal partie parce que jusque-là, il n'y a pas une consultation suffisamment large. Il n'y a pas un débat ouvert sur la question et on s'étonne qu'il y ait des décrets qui soient même pris sans que l'opinion publique congolaise n'ait participé clairement à comprendre pourquoi on est en train d'informer les entreprises publiques. Merci. Aujourd'hui, à travers le monde, la tendance est à plus de régulation, plus de participation de l'État dans les entreprises, étant donné la crise financière internationale, mais chez nous, on veut aller vers la privatisation.
Merci, François.
C'est des questions qui exigent, à mon avis, un plus large débat. Probablement que le gouvernement a raison.
Merci.
Mais il faut qu'on nous explique davantage pour que nous puissions échanger et être convaincus de la décision du gouvernement.
Voilà, nous entrons pratiquement dans la dernière partie de cette émission qui concerne les conclusions, mais avant, il y a Moussekedi de Kinshasa qui dit, est-ce que M. Moulongo peut nous donner les curriculum vitae de ces deux responsables de Progoza à la tête de l'ONATRA, lui qui vante leurs mérites, camarade de Bouya en province orientale, si le processus de réforme des entreprises publiques traîne les pas aujourd'hui, ne serait-ce simplement pas parce que les gouvernants recherchent le profit individuel en lieu et place de l'intérêt public? Je vais vous demander à chacun 15 secondes en guise de conclusion. Commençons par vous, Michel Moulongo.
Voilà, le CV, je crois, M. Raymond Georges, c'est un ingénieur et nous avons publié le CV de M. Raymond Georges. L'ADT, c'est un ingénieur aussi des chemins de fer qui a travaillé à la SNCF en France.
Conclusion. Vos conclusions.
Conclusion. Je voudrais dire ceci. Il fallait, on a sauté sur le plan social. Et je vais terminer par là parce que là, c'est un dada pour nous parce que la réforme au Congo, elle a une caractéristique. C'est que les moyennes d'âge dans les entreprises sont trop élevées. Et aujourd'hui, 4 à 5 000 personnes à l'ONATRA doivent aller à la retraite, simplement à la retraite, et en réalité, on devra engager.
Merci. Etienne Tadila, en un mot.
J'ai voulu d'abord noter que le monsieur Moulongo de Copirep a oublié de donner le CV de monsieur Claude Pétine-Ponson pour des raisons qu'il connaît. Mais ce que nous pouvons dire par rapport à la réforme, c'est que pour nous, les mérites de la réforme aujourd'hui, c'est d'avoir confié la tutelle des entreprises publiques hier au seul ministre du portefeuille. Nous demandons au gouvernement de confier la réforme à une commission interministérielle qui dépendra cette fois-là du premier ministre.
Merci, Tadila. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à Guy Mathis, Samuel Kachak, Martin Sebujangwe et Mimi Kindou qui étaient à la mise en onde. Au revoir. Okapi, okapi.